Chapitre 7. Peine perdue. Depuis ce moment, les familles d'Etherington et de Clèves vécurent dans la paix et l'harmonie la plus parfaite, jusqu'à ce que Génia, la plus jeune, eût atteint sa 15e année. Alors Sir Hugh écrivit à Leipzig pour faire revenir sans délai son neveu Lindmer. « Non que je veuille déjà les marier, disait-il à M. Tyrold, Eugénia n'est encore qu'une enfant, excepté pour le latin, quoique pourtant ce soit parmi nous celle dont le jugement est le plus avancé, la pauvre Indiana n'étant rien auprès d'elle, malgré tous ses charmes. Mais je pense que plus tôt Clermont reviendra, plus tôt ces jeunes gens pourront prendre de l'inclination l'un pour l'autre. » Ce projet de mariage n'était pas seulement connu de Sir Hugh et de Monsieur et de Madame Tyrold. Sans qu'on l'eût annoncé publiquement, tous les domestiques en étaient instruits. Eugénia elle-même le savait depuis longtemps, quoique Madame Tyrold eût expressément exigé de Sir Hugh de ne pas le lui déclarer formellement. Le baronnet n'en faisait pas moins son bonheur de préparer son neveu et sa nièce l'un pour l'autre. Et chaque jour, il s'attachait davantage à ce projet favori en voyant les progrès extraordinaires d'Eugénia. Ce qui répondait le plus heureusement du monde aux ordres qu'il envoyait à Leipzig pour que son neveu travaillât sans relâche et devint un prodige de science. Au milieu de ces douces espérances, ce fut donc pour lui un coup bien rude, bien imprévu, que la réponse qui lui arriva de Leipzig. Au lieu de songer à revenir, le jeune époux prétendu le priait de permettre qu'il fît le tour de l'Europe, tandis qu'il était sur le continent. « Quoi ? » s'écria Sir Hugh, « et c'est ainsi qu'il nous aime ? Après tant d'années de séparation, voilà comme il désire de revoir sa patrie. Ce sont les étrangers qu'il préfère à sa famille. » Eugénia, malgré son extrême jeunesse, admira intérieurement le désir qu'avait Lindmer d'acquérir des connaissances. Elle ne put qu'y applaudir, quoique pourtant elle eût souhaité de voir ce jeune homme, le compagnon futur de sa vie et l'objet de tous ses travaux littéraires. Car Sir Hugh ne manquait jamais, pour éveiller son zèle lorsqu'il venait à se ralentir, de l'assurer que, si elle ne redoublait d'efforts, son cousin Clermont l'éclipserait. Elle avait au moment actuel acquis un goût décidé pour l'étude, peu ordinaire à son âge, mais qui, fort heureusement, lui sauvait l'ennui de la vie sédentaire à laquelle sa santé délicate la condamnait. Aussi était-ce avec plaisir qu'elle regardait Lindmer comme un objet d'émulation qui lui inspirait, pour s'instruire, cette ardeur, cette volonté ferme, presque toujours attachée aux occupations de notre choix, les seules qui n'aient besoin ni d'interruption ni de délassement. Sa constance à étudier l'avait encore empêchée de songer à ses désavantages extérieurs, dont Sir Hugh avait défendu qu'on lui parlât jamais. Premièrement, disait-il, pour ne pas la chagriner, et secondement, pour qu'elle n'eût pas envie de le haïr, lui qui en était la seule cause. Ses défauts, dont personne ne la faisait souvenir, s'éloignèrent insensiblement de son idée. Elle grandit sans se douter aucunement que, douée par la nature de plus de charme que ses aimables sœurs, la maladie et les accidents les lui avaient enlevés. Mais les accidents et la maladie n'avaient pas eu de prise sur son âme, la beauté morale y brillait dans toute sa pureté. L'égalité de son humeur la faisait regarder comme une jeune philosophe, ses connaissances et ses sentiments étaient de la classe la plus distinguée, elle unissait les lumières de l'esprit à toutes les vertus du cœur, fondées sur les meilleurs principes. Le mécontentement de Sir Hugh contre son neveu n'alla pas jusqu'au refus de sa demande. Il consentit avec peine au voyage proposé, mais il pourvut généreusement à la dépense et Clermont eut 3 ans pour faire le tour de l'Europe. Le baronnet n'eut pas plus tôt accordé cette permission qu'il sentit renaître son ancienne mélancolie. 3 ans lui paraissaient un siècle. Était-il sûr de vivre assez pour en voir la fin? Quelle peine il s'était donnée pour les rendre savants? Comme cette peine était devenue inutile! Comme ses plus prochaines espérances étaient trompées! Et même le goût d'Eugénia pour l'étude, dont il s'était si fort applaudi, maintenant ne lui paraissait bon qu'à la rendre insociable. Tout le temps qu'elle donnait au travail, il commença à le regarder comme perdu pour lui. Il ne voyait plus de consolation à espérer, lorsqu'enfin il lui revint à l'esprit que l'aimable Camilla pourrait encore égayer son ennui et embellir ses jours. Entre cette idée et l'ordre de mettre ses chevaux, il n'y eut point d'intervalle. Et en entrant dans le cabinet de M. Tyrold, il s'écria « Mon frère, il faut que j'emmène Camilla. Indiana ne dit rien pour m'amuser. Eugénia est si enfoncée dans ses livres que près de moi, j'aimerais autant une vieille femme, ce qui ne serait pas agréable non plus. Je ne vois que Camilla qui me convienne. Cette demande, peu agréable de toute façon à M. Tyrold, déplut entièrement à son épouse. Camilla venait d'entrer dans ses 17 ans, et tout en elle était aimable. Mais, à cet âge où le caractère se développe, elle avait besoin de la surveillance la plus éclairée. D'ailleurs, son humeur était si engageante qu'elle inspirait à ses parents une tendresse égale à leur vigilance et qu'ils ne pouvaient se séparer de Camilla, non moins par amour que par crainte. Ses aimables qualités avaient un tel ascendant que, sans trop savoir comment ni pourquoi, toute la famille était gouvernée par elle. Sa folâtre insouciance était pour eux une source d'amusement. Si quelquefois sa vivacité leur faisait craindre quelque imprudence, l'innocence de son âme les rassurait bientôt. L'intérêt qu'elle faisait naître la rendait la première personne de toute la maison et l'objet d'une douce sollicitude, trop vague pour alarmer sérieusement, assez vive pour que sans cesse on s'occupât d'elle. Sa tête était légère, mais son cœur était tendre. Ses grâces et sa gaieté avaient un charme irrésistible. La remettre de nouveau entre les mains de son oncle semblait plutôt impossible que désagréable à Madame Tyrold. Mais Sir Hugues pressait son frère avec trop d'instance pour être entièrement refusé. Camilla lui fut donc accordée seulement pour les 3 mois suivants, et afin de l'aider à se consoler du chagrin encore récent que lui donnait l'absence de Clermont. Sir Hugues reçut son ancienne favorite avec cette joie vive et désordonnée, compagne ordinaire d'une imagination mobile qui voit dans chaque bonheur présent un refuge assuré contre toutes les peines. Mais comme sa vive ardeur pour l'étude s'était changée en un extrême dégoût pour toute espèce de littérature, son premier mot à Camilla, lorsqu'elle arriva chez lui, fut qu'elle n'apprendrait pas le latin. Et son premier soin, après l'avoir embrassé, fut de recommander solennellement au docteur Orkborn de ne pas lui donner de leçons.